Midi 10, mercredi 15 décembre 2021, vous écoutez le magazine de Canal Sud. Aujourd'hui, cette journée est dédiée depuis 20 ans, comme tous les ans. C'est une journée internationale contre les violences faites aux travailleurs, travailleuses du sexe. Cette année, en France, ce sont 4 travailleuses du sexe qui ont été tuées. Et derrière ce chiffre tragique, il y a, on va avoir l'occasion d'en parler, la partie immergée de l'iceberg, j'ai envie de dire, ces violences spécifiques faites aux travailleuses, travailleurs du sexe. Et on va en parler justement avec deux invités qui vont se présenter, puisqu'on n'a pas dit si on disait les prénoms ou pas. Salut à vous.
Bonjour, du coup moi c'est Amar, je suis travailleuse du sexe et porte-parole du STRAS, le syndicat de défense des droits des travailleurs et travailleuses du sexe en France.
Et moi c'est June et je suis chargée de projet à l'association Griselidis, qui est une association de santé communautaire pour les travailleuses du sexe basée à Toulouse depuis 20 ans.
Merci beaucoup. Alors oui, je pense que dans ce magazine, on va peut-être essayer de partir de la base, vu que j'imagine qu'il y a beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui ont des représentations assez partielles de la réalité de ce que peut être le travail du sexe et ses implications au niveau des violences, mais aussi l'aspect communautaire, santé et le suivi en fait des associations et les revendications, enfin en tout cas les luttes menées par les syndicats. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez présenter un petit peu justement comment se situe pour ta part Griselidis, l'association, et le STRAS, ce syndicat? Quels sont vos champs d'action, de lutte, et peut-être en quelques mots votre histoire sur les luttes que vous portez et les messages que vous portez sur le travail du sexe?
Du coup, le STRAS, comme tu l'as dit, c'est un syndicat de défense des droits. Donc nous, nos champs d'action, ils sont multiples dans le sens où on s'est structuré historiquement autour de plusieurs combats, notamment des combats autour de la criminalisation, quelle que soit la forme que prend cette criminalisation du travail sexuel. Et donc aujourd'hui, ce qui va particulièrement nous mobiliser, ce qui attire particulièrement notre attention, c'est la loi de pénalisation des clients. La loi sur le proxénétisme. Donc nous, ce qu'on demande aujourd'hui, pour des motifs multiples sur lesquels on pourra revenir, mais notamment, enfin, tout simplement la santé des personnes, l'exposition aux violences auxquelles elles font face aujourd'hui, c'est l'abrogation de cette loi de pénalisation des clients et la redéfinition de la loi sur le proxénétisme, parce que nous estimons aujourd'hui, et les travailleuses du sexe dans leur plus grande majorité estiment, que ces lois sont extrêmement délétères parce qu'elles portent atteinte à nos droits fondamentaux. Et donc nous, ce que nous estimons, c'est que nous avons à réclamer ces droits, c'est-à-dire que, et c'est la raison pour laquelle on dit que nous sommes travailleuses du sexe, c'est-à-dire que nous voulons considérer le travail du sexe comme un travail, c'est-à-dire entrer dans le droit commun, et que nous ayons, pour le dire simplement, les mêmes droits que l'ensemble des travailleurs et travailleuses en France.
Merci.
Alors, pour ma part, donc à Griselidis, nous, on est une association donc, qui s'est créée il y a 20 ans et on est une association de lutte contre le VIH à la base. Et donc, nous, on fait beaucoup de prévention dans la rue, mais aussi sur Internet et d'accompagnement global en santé en accompagnement social. Donc ça, c'est notre activité principale, d'accompagner les gens dans leur parcours de soins, dans l'obtention des papiers, dans la débrouille administrative, et puis voilà, faire de la prévention auprès des personnes. Et après aussi, on a tout un volet de plaidoyer. Donc c'est là aussi, notamment, on travaille avec le STRAS très régulièrement sur la question du plaidoyer auprès des pouvoirs publics, mais aussi auprès du grand public, sur la question du travail sexuel, parce que c'est vrai qu'il y a un cadre légal qui est extrêmement complexe, que peu de gens connaissent, et en fait qui impacte en premier lieu les travailleurs et travailleuses du sexe.
Merci à vous. Justement, je le disais pour commencer, est-ce que, même si c'est pas ultra simple, est-ce que vous pourriez nous aider à avoir une représentation un peu plus réaliste et précise de de quoi on parle quand on parle du travail du sexe, en l'occurrence à Toulouse, là dans la ville dans laquelle on vit, Par exemple, savoir si il y a une grande part de travailleuses indépendantes ou pas. Est-ce que, comme on peut se l'imaginer, il y a beaucoup de, il y a une majorité. Est-ce que, comme ouais, dans les représentations qu'on peut avoir, il y a une majorité de travailleuses du sexe qui n'ont pas de papier ou pas. Voilà, savoir un petit peu faire un petit point sur. Sur, j'imagine, les représentations que vous connaissez, dont vous entendez parler, et les réalités du travail du sexe.
Oui, du coup, alors sur Toulouse, déjà quand même un petit point, parce que nous, c'est le terme indépendant, c'est pas les termes qu'on va utiliser. Du coup, juste faire un petit point là-dessus, notamment sur la question du choix, les personnes qu'on choisit, les personnes qui sont forcées. Nous, c'est des questions qui reviennent beaucoup, qui est indépendant, qui est forcé. Et nous, en tout cas, dans les réalités qu'on voit, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'on voit plus un continuum de contraintes. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des gens qui vont être dans ce qu'on appelle de l'exploitation, être forcés, etc. Ça, on le nie pas. Mais après, je veux dire, tout le monde est soumis à des contraintes, notamment la contrainte économique, bah voilà, qui est tout le monde, toutes les personnes sur cette terre sont soumises à ces contraintes. Donc on ne peut pas d'un côté opposer des personnes, on va dire, contraintes et des personnes qu'on choisit. Nous, on va voir vraiment un continuum de contraintes. Et même pour les personnes qui vont être dans des contraintes, on va dire, extrêmes, il y a toujours à des endroits où elles vont avoir des marges de manœuvre pour pouvoir agir sur leur vie, faire des choix, avoir des stratégies. Donc voilà, donc c'est aussi pour rendre compte de ces réalités extrêmement diverses, extrêmement complexes, que nous, on essaye de parler un peu plus tôt d'un continuum de contraintes. Après, sur Toulouse, donc on va dire dans la rue, il y a beaucoup de personnes migrantes, dont un certain nombre de personnes sans papier, mais c'est une grande majorité dans la rue de personnes migrantes. Et on va dire que il y a beaucoup moins de personnes, le nombre de personnes a beaucoup diminué. Ces 2-3 dernières années. Alors, il y a eu la crise sanitaire, bien évidemment, mais avant, ça avait aussi commencé avec la politique municipale, avec les arrêtés anti-prostitution, qui sont mis en place par la municipalité de Toulouse depuis 2014 et qui s'étendent d'année en année. Donc, chaque année, ils sont revotés. Chaque année, il y a encore plus de rues où le travail sexuel est interdit sous peine d'amende et où les travailleurs et travailleuses du sexe font face à un harcèlement policier quotidien. Et donc tout ça, c'est vraiment, ça rentre dans des politiques de ville, de gentrification pour éloigner les personnes du centre-ville. Et voilà, c'est des comités de riverains qui se mettent parce qu'ils veulent pas que, en gros, d'avoir des putes en bas de chez soi, ça fait baisser le prix de leur appartement. En gros, enfin, je veux dire, pour faire très simple, c'est un peu ça qui se passe. Et du coup, voilà, donc aujourd'hui, nous, on compte à peu près, on va dire, allez, 300 personnes qu'on va voir en une année dans la rue. Et c'est voilà, essentiellement des personnes migrantes. Les quelques personnes, on va dire, françaises qu'on va croiser, ça va être plus ce qu'on va appeler des anciennes, des traditionnelles, des gens en tout cas qui travaillent depuis longtemps dans la rue. Mais globalement, sauf exception, des nouvelles personnes françaises qui vont commencer le travail sexuel vont plutôt commencer via Internet aujourd'hui. Sur Internet, à Toulouse, dans l'agglomération toulousaine, alors là, je vais donner vraiment un chiffre à la louche parce que c'est très très compliqué de donner un chiffre exact, mais je dirais qu'il y a peut-être 2000, 3000 personnes, bon, c'est assez vague, qui vont en tout cas avoir des petites annonces sur différents sites dans l'agglomération toulousaine. Et après, il y a aussi tout un tas de travail sexuel qui va être beaucoup moins formel, des gens qui vont plus échanger un logement, un hébergement contre des prestations sexuelles ou des produits ou autre chose, qui vont pas forcément se considérer comme travailleurs ou travailleuses du sexe, mais qui vont être dans ces échanges qu'on va appeler des échanges économico-sexuels, qu'on peut aussi considérer comme du travail sexuel.
Oui, j'aimerais ajouter quelque chose à ce que June disait, qui est évidemment, je trouve, très pertinent. C'est qu'il y a une grosse problématique autour de la manière dont le travail sexuel est considéré aujourd'hui politiquement. C'est qu'il y a une production de chiffres qui est en fait, qui n'a aucune valeur scientifique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on nous rabat les mêmes chiffres, l'âge d'entrée dans la prostitution, le taux de suicide chez les personnes, que 90% des personnes qui exercent le travail sexuel sont migrantes sans papier. Et donc, de là, on va faire découler effectivement tout un ensemble de terminologies qui tournent autour de la contrainte, de l'exploitation, de la traite des êtres humains. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on va articuler entre elles, tant en fait les données chiffrées sont fortes sur ce sujet. Et pourtant, pour autant, en fait, je pense que c'est quelque chose d'important à déconstruire, ces chiffres n'ont aucune base scientifique. Il n'y a jamais eu d'enquête quantitative et qualitative sur ces sujets-là. Et donc, en fait, avec tout cet appareil de loi qui est extrêmement répressif, on est dans l'impossibilité d'avoir une visibilité sur ce qui se passe vraiment en termes d'exploitation. Donc ça, c'est vraiment tout le paradoxe auquel on est confronté. On est bien d'accord, évidemment, nous voulons éviter les situations d'exploitation des personnes. C'est bien évidemment un objectif central. Mais les politiques telles qu'elles sont formulées aujourd'hui nous l'empêchent et nous empêchent de l'avoir de la visibilité et cette marge de manœuvre-là. Donc on est confronté finalement face à une réponse qui est strictement idéologique et qui n'est pas aujourd'hui pragmatique.
Et pour ajouter aussi quelque chose sur la question de la contrainte et de l'exploitation, nous, ce qu'on peut vraiment voir sur le terrain, c'est que, en tout cas, dans les personnes qu'on accompagne, la première problématique qui favorise l'exploitation, c'est la question des frontières, de la fermeture des frontières, de l'accueil catastrophique des personnes migrantes en France, et qu'à un moment, il faut bien imaginer que pour entrer en Europe ou sur le territoire français, en étant extra-européen, notamment en venant d'Afrique subsaharienne, il faut passer par un tas d'intermédiaires et donc avoir quand même des dettes de passage assez élevées. Et aussi, aujourd'hui, le voyage par avion n'est plus possible. Donc, c'est un voyage... Le trajet migratoire se fait par la terre, en traversant plusieurs frontières, avec toutes les violences qu'on connaît, et toutes les catastrophes qu'on connaît. Donc, les personnes arrivent ici en ayant des énormes dettes à rembourser. Et c'est ça... pour nous, qui fait qu'à un moment, les gens se retrouvent exploités et forcés. Et aussi aujourd'hui, par exemple, quand on est une femme migrante qui vient d'Afrique subsaharienne, sans papier, c'est-à-dire sans droit au travail, il n'y a pas 1000 manières de faire de l'argent. Et d'autant plus pour rembourser des dettes qui peuvent s'élever entre 40 000 et 60 000 euros. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est pour nous ça le principal problème qui fait qu'il y a des personnes qui sont exploitées. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well-versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, China, went down to gauge her mind. Then again, incidentally, she was in that way. Perfume came naturally from Paris. Forgot she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Playful as
a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of gas. You're absolutely dry. An appetite. Wanna try?
Un peu plus de midi et 25 minutes sur Canal Sud 92.2 pour le magazine en compagnie de June et de Amar. On parle aujourd'hui des violences faites aux travailleuses du sexe, de leurs causes, des outils de lutte. Alors, on a fait un petit, vous nous avez donné un petit aperçu de déjà des problématiques par le, ou plutôt du paradigme par lequel on peut mieux comprendre les réalités ou déconstruire les représentations associées au travail du sexe. Quand on parle de violence, puisque cette journée, enfin, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, de quelle violence on parle? Et aussi, puisque souvent, en fait, j'ai remarqué que quand on parle des violences, que ce soit les violences faites aux femmes, notamment, on a passé un magazine entier à parler des femmes, alors qu'en fait, ben, le problème ne vient pas en l'occurrence des femmes, mais du patriarcat. Donc, du coup, poser la question de qui est à l'origine des violences. Vous avez commencé à donner des éléments, mais qu'est-ce que vous identifiez comme étant à la cause, à l'origine des violences subies par les travailleuses du sexe qui en sont victimes?
Bah, alors déjà, effectivement, je pense que tu as soulevé un point très très important, le soulever. C'est-à-dire que quand on parle de violences faites aux femmes, les violences que rencontrent les travailleuses du sexe sont souvent invisibilisées. Et ça, c'est assez symptomatique, je pense, d'une certaine, encore une fois, je me répète, hein, mais d'idéologie qui vise à silencier, à marginaliser sous diverses formes les travailleuses du sexe, et notamment, à les stigmatiser, puisqu'on ne serait pas légitime à parler de violences. Or, nous subissons des violences multiples, diverses. Celle que j'identifie aujourd'hui, c'est bien sûr une violence systémique, institutionnelle, structurelle, qui fait partie vraiment du système et qui a été inscrite par un ensemble de lois dont j'ai pu parler tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment, notamment la loi de pénalisation du client et la loi sur le proxénétisme, ça nous a exposé, en contexte de crise sanitaire d'autant plus, à une multiplication de violences, et de violences qui peuvent aller de personnes, de clients qui vous sollicitent et qui ne viennent pas au rendez-vous, par exemple.
Est-ce que tu peux préciser peut-être assez rapidement, mais de quoi tu parles quand tu parles de la loi de pénalisation des clients et de la loi contre le proxénétisme?
Oui, bien sûr, pardon. c'est un réflexe. Effectivement, donc la loi de pénalisation des clients, c'est une loi qui vise à inverser en fait la charge pénale et qui considère que, la travailleuse du sexe n'est plus criminalisée, donc elle ne commet plus un délit lorsqu'elle exerce son travail, c'est le client en fait qui est criminalisé. Donc cette inversion de la charge pénale. Et ça fait que dans la pensée commune, aujourd'hui, la travailleuse du sexe, c'est une victime. Et plus particulièrement, elle est victime du système prostitutionnel, comme le dit le législateur aujourd'hui en France. Donc, en vérité, cette loi, qui visait originellement à protéger les travailleuses du sexe, hein, puisque ça, c'était vraiment l'idée, vous êtes des victimes, vous avez le droit à la protection, en fait, elle a eu pour effet l'exact opposé de ce qu'elle visait, c'est-à-dire que, comme j'essayais de le dire tout à l'heure, on a été vraiment surexposé aux violences, puisque, évidemment, on a moins de clients, que on est de plus en plus isolé, que les clients vont avoir tendance à négocier nos tarifs, à négocier nos pratiques. On va être victime de situations de braquage, de vol, de viol, de tentatives de meurtre. Et ça, c'est des choses qui, depuis l'adoption de cette loi, ont vraiment explosé. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire depuis 2016, c'est vraiment de tirer la sonnette d'alarme. Malheureusement, on n'est pas entendu par les pouvoirs publics aujourd'hui, tant l'idéologie, elle est ferme et ancrée dans l'action publique, les actions publiques qui sont menées aujourd'hui autour de la prostitution. Et puis, on a cette loi sur le proxénétisme. Alors, c'est assez intéressant, puisque, effectivement, c'est bien que tu m'aies dit de le redéfinir, parce que ce que la majorité des personnes entendent aujourd'hui par proxénétisme, c'est on va combattre un mec de préférence hein, qui nous opprime, qui nous retire notre argent, qui est très, très violent, au détour d'une rue. Or, la loi française, aujourd'hui, elle ne définit pas, en fait, suffisamment le proxénétisme, puisque le proxénétisme, c'est en fait toute situation ou toute personne plutôt qui va recevoir d'une manière ou d'une autre l'argent d'une travailleuse du sexe. Donc c'est extrêmement large et ça fait que dans toutes nos situations de vie, on va dire par exemple, enfin la situation qui est la plus claire je pense, c'est qu'à l'heure actuelle, mon bailleur, celui à qui je paye un loyer, est mon proxénète aux yeux de la loi. Si je prête une voiture à une collègue dans quelque cadre que ce soit, mais surtout si c'est pour aller travailler, on est dans des situations de proxénétisme. Donc récemment, en fait, la plupart des affaires de proxénétisme aujourd'hui, ce sont des personnes qui, par exemple, louent un Airbnb à plusieurs pour pouvoir travailler, puisqu'on ne peut pas travailler en sécurité chez nous. Donc on a besoin de cette sécurité-là. Or, en fait, on est criminalisé de cette forme-là aussi. Donc on se retrouve dans une situation où, comme tu disais, June, tout à l'heure, la prostitution, c'est une activité légale, mais tout ce qui l'entoure, toutes nos activités de vie, donc même le fait d'être en couple, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir une voiture, un logement, en fait, tout ça, ça nous est interdit d'une façon ou d'une autre. Et donc, on se retrouve dans des situations d'isolement extrême, où c'est ce qui est arrivé, par exemple, à Ivana, très récemment. Elle était seule dans son appartement, en région parisienne, et c'est parce qu'elle était seule et qu'elle pouvait pas travailler avec des collègues aussi qu'elle a fait face à une violence qu'elle s'est fait assassiner. En vérité, c'est des situations récurrentes comme ça. On nous interdit cette forme de sécurité. Nous n'en avons plus ce droit, et c'est extrêmement dangereux pour nous. C'est pour ça que je parlais de ces lois-là, parce que pour moi, c'est vraiment ces systèmes-là qui sont responsables aujourd'hui des violences qu'on subit, en plus, bien sûr, de toute la stigmatisation, de tous les stéréotypes et préjugés auxquels on peut faire face dans l'espace public, au sein des familles, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais aujourd'hui, structurellement, je pense que ce sont les causes principales.
Tu voulais rajouter quelque chose, peut-être, comme il y a un aspect vraiment santé aussi autour de Gaza des 10, peut-être de savoir dans l'accès à la santé, ou alors tu parlais tout à l'heure du harcèlement policier, peut-être préciser plus concrètement comment il se manifeste à Toulouse.
Oui, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Amar sur la question déjà des violences. Nous, c'est vraiment ce qu'on a pu constater à Griselidis depuis la mise en place de la loi de pénalisation des clients, l'augmentation, l'explosion des violences, de la précarité, vraiment de l'extrême pauvreté, et aussi de l'exposition plus aux IST, aux VIH, puisque les personnes acceptent des clients des pratiques qu'elles n'auraient jamais acceptées auparavant. Sur le harcèlement policier, il faut savoir que donc, ce que je disais à Toulouse, il y a des arrêtés anti-prostitution qui s'étendent d'année en année, qui viennent s'ajouter à la loi de pénalisation des clients. Et donc, ça fait une présence policière quotidienne sur les lieux de prostitution de rue. Donc, à la fois pour mettre des amendes aux personnes qui travaillent dans des lieux interdits par les arrêtés, et alors que la police n'a le droit dans les faits que de mettre une amende par jour, il y a parfois 3-4 amendes par jour. Et puis, ça ouvre le harcèlement, les insultes sexistes, racistes, transphobes de la part de la police municipale. Après aussi, la police nationale qui vient mettre la pression pour empêcher les clients de venir, qui vient, alors là, avec la crise sanitaire, sur les questions de masques, d'attestation, etc., ça se rajoute. On a vu des personnes, notamment avenue des États-Unis, qui, là, au moment, un peu récemment, quoi, qui nous disait on peut se faire contrôler jusqu'à 7 fois dans la nuit, parce qu'il y a aussi après la police qui vient contrôler pour les papiers, etc. Donc jusqu'à 7 fois, 7 contrôles dans la nuit, donc c'est énorme. Et sur les conséquences directes, par exemple, des lois sur le proxénétisme, déjà il faut savoir qu'une grande partie des personnes en prison pour proxénétisme aujourd'hui sont des travailleuses du sexe, parce que l'entraide est criminalisée par les lois sur le proxénétisme. Un exemple qui va peut-être parler aux personnes de Toulouse, c'est que il y a quelques années, la rue Bayard a été en chantier pendant 2 ans pour refaire une rue Bayard un peu c'était la gentrification de la rue Bayard, et dans cette rue Bayard il y avait un hôtel qui s'appelait Le Grand Toulouse, qui était un hôtel à côté de la gare, où il y avait des personnes précaires et dont un certain nombre de travailleuses du sexe qui vivaient dans cet hôtel. Et pendant cette période de chantier, en plein hiver, un jour, la police a débarqué. En moins d'une heure, les gens ont dû partir, mais vraiment en moins d'une heure, les gens ont dû partir. Et le gérant et le VR de nuit sont partis en prison. Je crois qu'ils ont pris 7 ans ferme pour proxénétisme aggravé. Et en fait, nous, dans les personnes qu'on a accompagnées, il y avait, je crois, 14 travailleuses du sexe qui vivaient dans cet hôtel. Et en fait, on a vu la situation des personnes se dégrader de plus en plus. C'est-à-dire que là, elles avaient un logement pérenne. Et en fait, ça a été vraiment d'aller d'hôtel en campement, etc. Elles n'ont plus retrouvé pour la plupart de logement pérenne. Et suite à ça, forcément, d'autres hôtels où il y avait des travailleuses du sexe qui vivaient ont fermé dans la semaine qui a suivi, parce que les gérants ont tous eu peur, ont mis la clé sous la porte et sont partis loin. Donc on voit bien comment en fait ces lois-là impactent en premier lieu les travailleuses du sexe. Et après, pour ajouter, c'est qu'en plus de ces violences-là, donc il y a la violence, les violences policières, les violences dues à la loi, et les violences, on va dire, d'agresseurs. Et en fait, face aux violences des agresseurs, les personnes ne vont pas aller porter plainte, ne vont pas parler, parce que à un moment, en fait, la police est vue d'abord comme un organe de répression, plutôt que la police ne protège pas les travailleuses du sexe.
Je voulais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. En fait, tu parlais des conséquences concrètes, Amar, des lois de pénalisation et de la précarisation, avec par cette pénalisation du travail du sexe, au final, de manière globale, un déplacement géographique qui met en danger. À Toulouse, ça s'observe de cette manière-là, avec le déplacement, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, mais le déplacement des lieux d'activité, il y a le canal, il y a l'avenue de l'URSS, je ne sais pas si aujourd'hui il y a encore des activités au niveau de la place Belfort, et justement, mais en tout cas c'était le projet de Moudin qui a été défendu. On n'est pas obligé en plus d'en parler 10 minutes, mais en effet c'était au centre, c'était assez fou puisque c'était au centre de sa campagne. Il a fait du travail du sexe, de la lutte contre la prostitution, un peu l'avatar de cette ville marchande, riche, propre, qui défendait. Et du coup, ça se manifeste, enfin, c'est très visible, j'ai l'impression, géographiquement à Toulouse, ou peut-être pas.
Si, non, mais tout à fait. En plus, c'est la première mesure qu'il a prise en 2014 quand il est arrivé, quand il est devenu maire. Et là, en 2019, quelques mois avant sa réélection, il a fait une extension, il a étendu les arrêtés municipaux, les arrêtés anti-prostitution, comme il ne les avait jamais étendus. Donc c'était aussi encore une manière de mener campagne. Il y a eu des manifestations, d'ailleurs réprimées, de travailleuses du sexe et de militants, militantes, notamment Boulevard de Suisse, parce qu'en 2014, c'était Boulevard de Suisse qui avait un comité de riverains qui était mobilisé contre les travailleuses du sexe. Pour la petite histoire, il y a quand même une mobilisation de personnes très réprimées, où il y a eu quand même une personne qui s'est pris une peine avec un bracelet électronique pour violence avec arme par destination, en l'occurrence un god agité à la tête d'un voisin. On rigole, mais la personne, elle s'est quand même pris une condamnation avec un bracelet pendant un moment pour ça, quoi. Donc Donc oui, c'est le déplacement à la fois dans la ville de Toulouse, vraiment toujours repousser les personnes plus loin. Donc là, on voit beaucoup de personnes qui travaillent au fond de l'avenue des États-Unis, dans des zones industrielles mal éclairées, loin des voisins, loin des riverains, très loin d'une station de métro. Donc il faut toujours demander à un client de les raccompagner ou appeler un taxi ou des choses comme ça. Et il y a encore des personnes qui travaillent sur le canal, mais là, on a vu ces dernières semaines un peu une offensive d'un comité de riverains au niveau des minimes, où il y a eu quelques articles dans la Dépêche qui racontent n'importe quoi, on va dire, parce que c'est toujours la même chose, on va dire, il y a les déchets, les portes qui claquent, comme si... Et puis, c'est comme si les travailleuses du sexe faisaient des passes en plein jour devant les enfants qui vont à l'école. C'était vraiment ça, qui était de cet ordre-là. Voilà. Et nous, on a des solutions très simples. Hein. Nous, je veux dire, un peu, déjà, mettez des poubelles aux endroits où les personnes travaillent, mettez des toilettes, parce que oui, les personnes travaillent toute la nuit, donc à un moment, les riverains se plaignent qu'elles vont faire leurs besoins ou quoi, mais à un moment, si elles avaient des conditions de travail, on va dire, décentes, il ne se passerait pas tout ça. Et ensuite, sur les déplacements des personnes, ça ne se passe pas qu'à Toulouse, c'est-à-dire que la loi a fait aussi que, comme il y a moins de clients, les personnes sont beaucoup en tour, c'est-à-dire vont aller de ville en ville. Des personnes qui vont avoir des petites annonces sur Internet vont aller un mois, deux mois, de ville en ville, dans toute la France. Et donc, ça va être beaucoup plus compliqué pour nous, en tant qu'association de prévention, d'avoir un contact, on va dire, sur la durée avec ces personnes-là. Et aussi pour des questions de santé, notamment pour des personnes qui vivent avec le VIH, qui vont partir, on va dire, six mois de la ville où elles ont un suivi, et en fait, qui vont revenir après en rupture de traitement, ou des personnes qui prennent la PrEP ou tout autre traitement chronique. Donc ça a vraiment dégradé la santé des personnes durablement.
Maman, papa, tata, écoutez, c'est délicat. Je sais que vous vous connaissez pas, mais vous en faites pas, ça ira. Juste écoutez-moi, voilà. Asseyez-vous là.
Ouais, je suis pute. Mon Dieu, mais qui l'aurait prédit? Elle avait de si bonnes notes, de vieux amis, de bonnes familles. Mais je suis pute aujourd'hui, c'est un fait établi. Et si je suis pute, c'est que j'encule toute votre hypocrisie. Vos préjugés bien emballés, c'est le fan est prêt à péter. Je suis sous peau, les bandes d'enfoirés, sans déconner. Vous délirez, vous trébuchez, ouah. Nous au bûcher, quoi. Allez, arrête de pleurnicher, viens dans mes bras. Et je sais que tu le sais, c'est comme ça que je câline. Vos schémas de merde, tout le monde tapine. Et pour un feat, rien que ça pine. Regarde-moi, je porte mes couilles. Je crois que c'est ça qui te fout la trouille. Foufou, lumière et joli bruit. Mais derrière, j'entends que ça cafouille. Quoi, toi, tu crois quoi? Forcément que je marronne. Je te rappelle que t'es daronne. Devant moi, fais pas la folle. Oui, ta fille baisse, tiens-toi debout. Elle fait ses diasses, fais pas le fou. Elle est balèze, t'es ma tous les Yankees qui sont au rendez-vous. Et je suis sereine, car une fin, c'est toujours un début. Et ça m'écœure l'odeur de mon parfum dans vos histoires de cul. Patron, fini maintenant la honte. Dois changer de camp. Si j'ai baisé pour de l'argent, c'est parce que l'or est dans les temps. Ouais, la pute a des limites qu'il faut savoir écouter. Autrement dit, la dynamite. Si tu t'es trompé d'allié, bah ouais, les choses sérieuses ne font que commencer. L'empowerment est réel et peut tous vous détrôner. Ouais, je suis une fille bizarre, ouais, qui passe comme le blizzard. S'il te plaît, cherche pas mon regard, j'ai déjà vu trop de cafards. Et je crie, décrire, décrire, décrire. Et j'écris, mais pour vous, je gaspillerai même plus une rime. Et je crie, décrire, décrire, décrire. Et j'écris, mais pour vous, je gaspillerai même plus une rime. Et je crie, décrire, 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 décrire.
Et on écoutait Des Crimes de Maya Iso-Foulquier, dont on salue la mémoire. On est de retour sur Canal Sud, il est 13h moins le quart. On est toujours en compagnie de June de l'association Grise et Lédis et de Amar du STRAS, syndicat des travailleuses, travailleurs du sexe. Ma prochaine question, peut-être qu'on pourrait, ce serait intéressant peut-être de prendre quelques minutes pour parler de l'action des organisations dans lesquelles vous êtes, un petit peu c'est quoi l'accompagnement pour Grise et Lédis, et puis les champs de lutte, je sais pas, le STRAS, c'est quoi vos activités, comment vos points de lutte et vos je sais pas si revendication c'est un bon mot, mais en tout cas vos activités au sein du en ce moment au STRAS.
Oui, mais du coup, j'ai commencé un petit peu à en parler, puisque nos mobilisations, elles sont surtout concentrées autour des lois qui sont répressives pour la communauté des travailleurs et travailleuses du sexe. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous prend énormément de temps, qui demande bien sûr des actions de déploiement de notre plaidoyer, enfin essayer de déployer le plaidoyer autour de ces questions dans diverses organisations, qu'elles soient féministes ou non, enfin essayer de le porter la question auprès des gouvernements, des mairies, etc. Donc il y a vraiment évidemment tout un volet, disons, politique qui nous mobilise, puisque c'est la fonction première du STRA, c'est de porter ces questions de manière publique. Aussi, ce qui est vraiment central au sein du syndicat, c'est la création du service juridique. Donc ça a été vraiment, vraiment important, dans la mesure où ça permettait en fait d'accompagner les personnes qui nous sollicitaient, les travailleuses du sexe, bien sûr, dans leurs demandes quotidiennes. Et c'est là aussi qu'on a vu qu'il y avait une recrudescence des violences. C'est parce qu'il y avait de plus en plus de personnes qui disaient « j'ai été victime de violence, que faire ?» Et c'est ce que tu disais, June, tout à l'heure. En vérité, les recours pour porter plainte, c'est vraiment des recours extrêmement difficiles. Donc on a ce service juridique qui est très actif aujourd'hui, qui permet aussi de faire de l'accompagnement des personnes à la déclaration, puisque effectivement, comment se déclarer quand on est travailleuse du sexe et qu'il n'y a aucun régime spécifique qui nous permet d'exister réellement. Donc ça, c'est une chose, et c'est quelque chose d'assez important aujourd'hui aussi.
Mais l'information, c'est quand même que c'est possible de se défendre malgré ça.
Absolument, absolument. C'est tout à fait possible de se défendre. Après, ce sont des démarches qui sont souvent très très complexes, notamment pour les personnes elles-mêmes, parce que ça implique d'aller dans des commissariats où les personnes ne sont pas formées aux violences spécifiquement, alors déjà faites aux femmes, et ensuite faites aux travailleuses du sexe, particulièrement lorsqu'il s'agit de travailleuses du sexe trans, ou de travailleuses du sexe dans une grande précarité. Enfin, il y a vraiment une diversité de situations où en fait la police, les officiers de police ne sont pas en capacité de réagir, et ça va être des choses très très violentes qui vont être entendues. En tout cas, il y a un accompagnement qui est possible à ce niveau-là, et ce qu'on a essayé de faire aussi en partenariat avec Médecins du Monde, c'est la création d'un programme qui s'appelle le programme Jasmine. C'est une plateforme d'alerte en fait à destination des travailleurs et travailleuses du sexe, puisque face à l'augmentation des violences, l'idée c'était de créer ce système d'alerte où les travailleuses du sexe vont signaler en fait des clients, je pense qu'on peut plus les appeler des clients à ce stade, mais des potentiels agresseurs dans tous les faits de violence auxquels elles font face dans l'exercice de leur travail. Ça peut être le client n'est pas venu, le client m'a soutiré de l'argent, le client, enfin voilà, il y a eu des violences physiques, etc. Donc cette plateforme, ça a été vraiment un outil aussi entre guillemets, de réduction des risques, en tout cas de réduction des violences à l'encontre des travailleuses du sexe, puisque ça nous a permis d'avoir cette liste-là. Mais ce qui est quand même à noter, c'est que c'est la réactivité des associations, et je pense à un ensemble d'associations dont fait partie Grises et Lidis aujourd'hui, qui constitue la Fédération Parapluie Rouge. Ce sont ces associations qui prennent le relais quand l'État en fait est incapable de faire des mesures qui garantissent la sécurité des personnes, puisqu'on parle de ça finalement, de ces droits-là. Au-delà des clivages idéologiques, les personnes ne sont pas en sécurité. Et donc c'est les assos qui vont prendre le relais, les associations de santé communautaire particulièrement, ou même pendant la crise Covid, effectivement, c'est l'association Accept ST, c'est Grises et Lidis, c'est le PAST qui ont distribué des colis alimentaires, des medikits, etc., et qui ont fait de la réduction des risques au niveau de l'épidémie, de la pandémie mondiale. Donc là, vraiment, ça souligne aussi une défaillance de l'État, et qu'il y a des pratiques d'auto-organisation, d'autogestion qui essaient de combler ces manques, en fait, comme on peut.
Oui, du coup, concernant Grises et Lidis, donc nous, on est une association de santé communautaire. Ça veut dire que une partie de l'équipe salariée, une partie du CA de l'association vient du travail sexuel, à l'expérience du travail sexuel, que ce soit dans la rue ou sur Internet, et aussi une partie de l'équipe salariée a l'expérience migratoire, et fait partie des communautés majoritaires qu'on reçoit à l'association. Et nous, on est une association de santé en premier lieu, et on a des méthodologies d'action comme l'aller vers, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que les personnes viennent nous voir dans notre local, mais on va vers les personnes, c'est-à-dire qu'on a un bus de prévention et on va tourner dans les rues de Toulouse de jour comme de nuit plusieurs fois par semaine. On a des permanences Place Belfort qui est voilà, la place un peu traditionnelle de prostitution à Toulouse, et aussi on a une action d'aller vers depuis plus d'une dizaine d'années sur Internet, parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de travail sexuel qui s'effectue via Internet. Donc on a cette action-là où on va contacter les personnes via leurs petites annonces dans toute la France, et on contacte, là cette année on est arrivé à peu près 5000 personnes contactées, et on envoie, et on peut envoyer via Internet, voilà, des préservatifs aux personnes si elles ne sont pas sur Toulouse. Donc et pareil, dans la rue on distribue du matériel de réduction des risques. Donc après, on a un accueil au local pour l'accompagnement des personnes, que ce soit sur des questions de santé ou après, plus globalement aussi, des questions d'accompagnement social, de favoriser l'accès aux droits communs, parce que malheureusement, les personnes n'ont pas accès, voilà, c'est très compliqué pour avoir un suivi digne de ce nom, voilà, par une assistante sociale lambda, parce qu'il va y avoir les préjugés, les discriminations ou juste la méconnaissance des parcours spécifiques des travailleuses du sexe. Et aujourd'hui, la précarité est telle aussi que les personnes, leur priorité, c'est pas de prendre soin de leur santé, c'est déjà de savoir qu'est-ce qu'elles vont manger, où elles vont dormir. Donc déjà, pour aborder les questions de santé, il faut déjà en fait que les personnes puissent avoir un toit, puissent avoir de quoi manger. Voilà, nous, c'est vraiment ça, nos principales actions. Puis voilà, forcément aussi l'aide au droit au séjour. Et voilà, et après on a aussi une action de formation à destination des professionnels du secteur sanitaire et social, parce que pour favoriser l'accès aux soins et l'accès aux droits communs, il faut aussi que les professionnels soient formés. Donc voilà, on va former les professionnels dans leur structure, mais aussi on va former aussi à la fac ou directement dans des écoles, notamment des écoles d'éducateurs spécialisés. Et après, on a, voilà, comme je le disais tout à l'heure, toute une action de plaidoyer. On essaye d'être très présent sur les réseaux sociaux, de faire quelques événements comme la manifestation de ce soir. Et puis,
On peut en profiter pour en parler, puisqu'il nous reste 5 minutes. Je voulais en parler après. Ouais. Donc, le rendez-vous est donné à 18h ce soir, place Jean Jaurès. Voilà.
C'est donc la journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe, c'est le 17 décembre. Voilà, pour plein de raisons, on a organisé cette manifestation-là aujourd'hui, le 15 décembre. Donc voilà, on se réunit à 18h à Jean Jaurès et on va aller jusque Place Belfort en manifestation. Alors nous, on encourage les gens à venir nombreux et nombreuses. Il y aura une batucada, il y aura des performances. Voilà, on va essayer de que ce soit une manifestation quand même assez animée. Aussi, c'est vraiment important d'essayer d'être en nombre pour visibiliser ces violences qui sont toujours silenciées. Et voilà.
J'avais une dernière question. Il nous reste... Allez, 4 minutes, quelque chose comme ça. On n'aura sûrement pas le temps de vraiment d'y répondre, mais il y a d'autres pays, notamment en Europe, qui ont une législation beaucoup moins répressive à l'égard des travailleuses du sexe. Enfin, en tout cas, il y a des pays dans lesquels le travail du sexe est légal, ou légalisé, ou toléré. Ouais.
Parce qu'en France, c'est légal.
Oui, c'est d'accord. Ouais. Mais en tout cas, du coup, moins réprimé, en tout cas avec des législations qui donnent peut-être plus d'amplitude à une reconnaissance des conditions de travail, je ne sais pas. Du coup, je vous pose la question, est-ce qu'il y a d'autres modèles ou d'autres politiques, que ce soit en Europe ou ailleurs d'ailleurs, qui, selon vous, et on n'a pas le temps d'y répondre en long, en large et en travers, mais selon vous, protègent en tout cas mieux les travailleurs du sexe?
Bon, alors du coup, c'est une question effectivement qui est assez importante. En Europe, en tout cas, de ma connaissance, tu me dis, June, si jamais j'oublie quelque chose, mais pour moi, on oscille entre des modèles qui criminalisent complètement le travail sexuel, ou bien des modèles réglementaristes, c'est-à-dire où c'est l'État qui va réguler, contrôler. C'est ce fameux modèle de la maison close, hein, qu'on connaît très très bien dans l'histoire française et qui n'a pas du tout fait ses preuves. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit « Ah, mais les maisons closes, ce serait quand même super parce que vous serez moins exposés aux violences. » En vérité, non. On serait en vérité contrôlé, on serait sous l'égide de l'État, nos corps appartiendraient en quelque sorte à l'État, et de plus, en fait, il n'y a pas, comment dire, pas de possibilité pour les travailleuses du sexe migrantes, par exemple, de travailler dans une maison close. Ça protège personne d'aucune manière. Ça sert juste à nous invisibiliser. Donc aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas des modèles qui sont viables. Nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qu'on espère, c'est la décriminalisation. Donc il y a des esquisses de modèles en Australie, en Nouvelle-Zélande. Mais encore une fois, ces modèles-là, ils ont ses limites, puisque même une personne qui n'est pas néo-zélandaise, par exemple, qui va exercer en Nouvelle-Zélande, donc qui n'a pas ses papiers, qui n'a pas la nationalité néo-zélandaise, ne peut pas exercer le travail sexuel et va être criminalisée d'une certaine forme. Donc vraiment, c'est des choses... Après, voilà, il y a des régions en Australie où c'est possible, où c'est complètement décriminalisé. D'ailleurs, les personnes ont constaté, les autorités ont constaté qu'il y avait beaucoup moins de violences, quasiment plus de violences. Il existe bien sûr de l'exploitation, mais c'est quand même significatif en termes de chiffres que les personnes, dans des contextes de décriminalisation, ne sont pas beaucoup moins exposées aux violences.
Et pour rajouter aussi, en Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup, beaucoup moins de transmission VIH, enfin, sur des questions de santé. C'est vraiment aussi... on voit vraiment les résultats. Donc c'est vrai que, juste pour finir, pour rajouter sur ce que disait Amar, c'est qu'on ne peut pas mettre la prostitution à côté de la société. C'est vrai que si on aborde la question du travail sexuel, il faut aborder la question des droits, du droit au travail, de la question des papiers, de la question des frontières, parce que c'est tout ça que ça concerne, de la migration, la question de la migration des femmes. Évidemment, c'est un sujet qui recoupe plein d'autres sujets, et c'est extrêmement large, mais c'est vrai que...
On aura peut-être l'occasion d'en reparler, puisque vous serez les bienvenus dans une prochaine émission.
Super. En tout cas, merci de l'invitation. J'ai l'impression qu'on a quand même réussi un peu à faire le tour de plusieurs choses. Et puis, venez nombreux et nombreuses ce soir à 18h à Jean Jaurès.
Merci beaucoup.
Merci.
À vous. À
merci.
Bientôt et à tout à l'heure.
Pasó, a ti te lo cuento, no creas que no dolió, o que me lo invento, así es que se dio, yo tenía mi bebé, era algo bien especial, pero me obsesioné, con algo que a él le hacía mal, miles de canciones en mi y él me lo notaba. Y él tantas veces que me lo decía, yo como si nada.
Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va. Sabe que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiere duerme con ella, pero nunca la vayas a casar. Lo que pasó me ha dejado en vela. Ya no puedo ni pensar. La sangre le hierve. Siempre quiere más, puñaladita. Está su ambición en el pecho afilada. Es lo peor.
Es mal amante la fama y no va a quererme de verdad. Es demasiado traicionera y como ella viene se me va. Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar. No hay manera de que esta obsesión se me fuera ya de...
desaparezca. Yo aún no aprendí la manera.
No hay manera que desaparezca. Es mal amante la fama y no va a quererte de verdad. Es demasiado traicionera y como ya viene se te va.
Yo sé que será celosa, yo nunca le confiaré. Si quiero duermo con ella, pero nunca me la voy a casar.
Il est 13h30 sur Canal Sud 92.2 et nous sommes en compagnie au téléphone de Gaëlle. Salut Gaëlle.
Salut.
Tu travailles au CHU de Purpan et aujourd'hui ensemble on va parler de cette fameuse fresque qui était accrochée dans un lieu de l'internat ou dans la cantine.
Oui, tout à fait, dans le réfectoire de l'internat du CHU de Purpan. Ouais.
Voilà, c'est ça. Il y a eu toute une lutte pour enlever en fait cette fresque que tu vas nous raconter, qui aboutit aujourd'hui par une décision du tribunal administratif de bien la retirer. Alors peut-être pour les auditrices et auditeurs qui ne voient pas du tout de quoi on parle, est-ce que tu pourrais parler un petit peu, reparler du contexte et de quoi on parle quand on parle de cette fresque sexiste contre laquelle vous vous êtes battue depuis même plusieurs années, parce que ça fait longtemps qu'il y a ces problèmes-là, mais plus précisément depuis ces dernières semaines.
Ben oui, tout à fait. En fait, cette fresque dont on parle, c'est une peinture qui mesure quasiment 2 mètres par 4, donc c'est quelque chose d'immense, qui représente des médecins, hommes et femmes, et des personnels du CHU, notamment de Purpan, en tout cas médecins toulousains, qui sont clairement identifiables et qui sont représentés dans des positions sexuelles ou bien des positions dégradantes. Nus pour la plupart, travestis pour d'autres, ou bien accessoirisés avec des uniformes pour certains. On y voit, je vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est assez sordide, mais on y voit des médecins en sodomisant d'autres, une femme gisant pour morte entre les ordures avec manifestement ce qui ressemble à de la semence masculine sur elle. On voit une autre femme en train de manger les ordures à côté. Enfin voilà, c'est un tableau. Qui est,
c'est difficile de le croire avant de l'avoir vu.
Ouais, en fait, je pense que c'est. On a beau le décrire, tant qu'on l'a pas sous les yeux, on se rend pas bien compte d'à quel point c'est violent, en fait, de voir ça. C'est clairement pornographique. Pas que, hein, parce que cette femme qui est en train de manger des ordures, il y a rien de pornographique là-dedans. Si ce n'est que, c'est clairement sexiste, c'est homophobe.
Et ça se base sur des ressorts d'humiliation qui. Se fait passer pour de l'humour goût des commanditaires et des gens qui apprécient cette fresque. Quoi.
Exactement, c'est une fresque qui... Donc, pour reprendre un peu, l'internat, c'est une association en fait, c'est quelque chose qui est présent dans tous les CHU de France. C'est une association qui permet aux internes notamment et aux anciens internes d'un CHU de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de services, notamment celui de se restaurer, mais pas que. C'est aussi un endroit où on peut aller se reposer quand les gens sont de garde, par exemple. Et puis, on a des petits bonus avec, ça fait un peu office de comité d'entreprise, si on veut, pour des places de cinéma, des choses comme ça. Et cette fresque, elle a été commandée par l'internat de Purpan. Sur quelle cotisation, ça, on ne le sait toujours pas, mais probablement celle des gens qui cotisent, donc les nôtres, pour tapisser le mur du réfectoire, donc là où on vient manger tous les jours, parfois pour certains plusieurs fois par jour, tous les jours de la semaine ou presque.
Oui, parce que justement, j'en discutais avec une copine on discutait justement de cette lutte autour de cette fresque, en se demandant aussi si ça venait pas d'une certaine manière cacher ou invisibiliser d'autres problèmes plus matériels de l'hôpital. Mais en réalité, il y a aussi un scandale financier, puisqu'en fait, ça a été, il me semble, de la chronologie, il y a une deuxième fresque qui avait été commandée et qui coûtait très cher. Dis-moi si je me trompe, mais en fait, je crois qu'à la base, Il y avait une fresque qui représentait seulement des femmes dans des positions où, nues, et qu'en fait, suite aux critiques que cette fresque avait reçues, il y en a une autre qui a été refaite, mais cette fois-ci où tout le monde était nu. Est-ce que je dis n'importe quoi
Non, c'est exactement ça, tu as bien résumé. En fait, en 2018, il y avait déjà eu une action du collectif Jeudi 11, donc des usagers et usagères de l'internat, qui avaient dénoncé une fresque qui était à peu près de la même dimension, hein, donc toujours au même endroit à l'internat, qui représentait en fait là des pontes, donc des médecins, chefs de service pour la plupart, représentant donc comme cette fameuse la scène biblique, hein, donc avec des femmes gisant nues autour de ces prêtres qui étaient donc les médecins déguisés en tenue de prêtre qui mangeaient devant, ou en tout cas qui les reluquaient pour la plupart. Et donc en 2018, il y avait déjà eu un mouvement interne du collectif Jeudi 11 qui avait saisi les collectifs féministes, notamment Oser le féminisme 31, et le syndicat Sud Santé Sociaux qui avait demandé à la direction le retrait de cette fresque. En 2018, la direction avait demandé le retrait de la fresque qui n'a pas été retirée. En fait, en réalité, elle a simplement été déplacée de 2 étages, puisque au rez-de-chaussée, on mange, et 2 étages plus haut, à l'internat du CHU de Purpan, on se repose. Voilà, il y a des canapés, il y a des choses pour se reposer, il y a un billard, par exemple, hein, voilà, ce genre de choses. Donc, ça a été juste décalé. Et là, pendant toute la pandémie, ils en ont profité pour remettre un peu à neuf cet internat qui commençait à être un peu décrépit, c'est vrai. Donc refaire les peintures, etc., etc., la rendre neutre à nouveau, parce qu'en fait, cet internat-là, c'est là où il y a toutes les soirées qui se passent aussi. Donc il y avait évidemment un nombre incalculable de graffitis, de tags, bon, qui étaient pornographiques ou pas, mais en tout cas, clairement, des choses devant lesquelles on n'a pas envie de manger. Donc ça avait été tout repeint, tout joli, tout bien. Et on a vu, au même endroit qu'en 2018, une nouvelle fresque, celle dont je vous parlais, qui a été affichée. Et donc là, ça a été un peu la stupeur parce que, alors moi, à ce moment-là, je ne savais pas du tout, je n'étais pas arrivée au CHU en 2018, donc je ne savais pas que ça avait déjà eu lieu. Et quand j'ai prévenu, du coup, le collectif Oser le féminisme 31, qui s'est tout de suite remis en relation avec Sud Santé Sociaux pour réactiver la lutte, c'est là que j'ai découvert que c'était loin d'être nouveau, que la direction avait déjà statué et qu'en fait, c'était clairement une récidive, que c'était vraiment la même histoire 3 ans plus tard, sauf que cette fois-ci, les hommes ne sont plus en habit de prêtre, plus entre guillemets uniquement des femmes nues en position lascive, c'est carrément du porno trash en 2 mètres par 4.
Et comment ça s'est passé pour toi, pour vous, quand vous avez voulu publiciser, enfin, déjà dans un premier temps en parler entre vous, parce qu'en fait on se rend pas bien compte, à la fois cette fresque elle est ultra violente et on a du mal à imaginer comment cette situation peut être possible. Et en même temps, on voit bien comment dans nos environnements de taf ou autres, il y a des formes de statu quo et d'évidence, même si elles sont absurdes, qu'il est parfois compliqué d'affronter et de se donner la force de, je sais pas vraiment, de venir parler, de s'imposer en fait pour que les choses changent. Comment ça s'est passé pour toi et pour vous de monter un truc contre ça, quoi ?
Bah, ça n'a effectivement pas été évident. Là, on s'attaque à quelque chose qui est un peu la face visible de l'iceberg de quelque chose de plus profond qui, en fait, qui clairement, c'est l'esprit carabin, en fait, ce dont on parle, c'est cette tradition qui accompagne tous les étudiants et les étudiantes de médecine et même après, pendant leur cursus, qui va permettre effectivement des choses géniales d'esprit de corps, d'entraide, et voilà, des règles qui sont très très bien comme ça, mais qui a également son certain nombre de mauvais côtés, parce que l'esprit carabin, c'est aussi la culture de l'humiliation, la culture des gages sexistes et sexuels, et comme beaucoup d'esprits de corps de métiers comme ça, où on est entre soi, bah, c'est aussi la loi du silence. Et clairement, s'attaquer à cette fresque à l'internat, c'était rompre la loi du silence, ne pas cautionner ça, et du coup, prendre le risque d'avoir les foudres de collègues internes ou bien de collègues médecins, si jamais ça se savait. Donc moi, au départ, j'ai pas du tout pris la parole en mon nom propre, en étant clairement identifiée, parce que je savais qu'il y aurait des représailles. Donc j'ai contacté les collectifs, les syndicats, donc collectifs féministes et syndicalistes se sont unis pour porter cette parole-là. Déjà, au niveau de la direction, parce qu'en fait, nous, on s'était pas dit au départ que ce serait un problème, puisque la direction avait déjà dit en 2018 retirer là. On s'est dit, on va les prévenir, ils vont la faire retirer, et voilà, ce sera même pas un sujet. Elle va disparaître, et en espérant que celle de 2018 disparaisse une bonne fois pour toutes aussi, et ce sera tout. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'était pas du tout prévu comme ça dans leur programme à eux, en tout cas. La direction a été saisie et a effectivement demandé le retrait immédiat de cette fresque, qui n'a pas été retirée. En fait, ça a duré des semaines pendant lesquelles c'était un peu un jeu du chat et de la souris. Donc, il y avait au départ deux draps qui avaient été posés sur cette peinture, mais qui étaient enlevés régulièrement. Et puis finalement, la direction leur a demandé de cacher cette fresque jusqu'au moment où ils la retireraient pour de bon. Donc là, ils se sont dit, on va pas faire ça. On va installer, donc ils se sont quand même donné le mal de poser une tringle à rideau, sachant que c'est une fresque énorme, hein, donc faut voir la taille des rideaux et de la tringle. Donc au-dessus, pour l'encadrer, donc il y avait une tringle à rideau et deux énormes rideaux qui la mettaient en scène beaucoup plus que ça la camouflait, parce que les rideaux étaient tout le temps ouverts. Et ils avaient pris le parti aussi de camoufler ça de l'extérieur pour pas qu'on vienne les embêter avec des filtres opaques sur deux vitres qui étaient là. Donc suite à ça, on s'est dit non, là c'est plus possible. C'est clairement on se moque de qui. Enfin, on leur demande de retirer, ils jouent le timing et ils attendent que ça se passe. Et c'est là que finalement l'action a pris une autre ampleur, puisqu'il y a eu cette action auprès du juge des référés au tribunal administratif qui donc avec une audience qui a eu lieu, si je ne me trompe pas, c'était jeudi 2 décembre, et qui a fini donc mercredi 8 décembre avec l'ordonnance du juge retirant une bonne fois pour toutes cette fresque et toutes les autres, parce qu'en fait, il y a bien celle de 2018. En réalité, à Purpan, il y a ces deux fresques-là. À Rangueil, il y en a d'autres. Et dans tous les CHU de France, il y en a. C'est pas du tout un acte isolé, hein. Clermont-Ferrand a également porté plainte par rapport à ça. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui est juste de chez nous. Donc ça a été retiré le jour où le juge a ordonné, avec son ordonnance, là il y avait plus de discussion. Donc il a ordonné le retrait. Donc la fresque a été bien retirée. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est entreposée. En tout cas, elle est plus dans le réfectoire, ça c'est sûr. Mais mis à part le fait qu'il y ait eu ce retrait-là, il y a aussi eu une amende qui a été posée pour le CHU pour une action, hein, clairement, parce qu'ils avaient laissé les choses faire et ils auraient dû se donner les moyens de faire appliquer leurs consignes. Donc une amende de 1 500 euros un peu symbolique. Mais par contre, toutes les demandes qui avaient été demandées aussi, par exemple le fait de sensibiliser les personnes aux violences sexistes et sexuelles, ça n'a pas été retenu. Enfin, il y a tout un certain nombre.
Oui, parce qu'en fait, ça c'est un petit peu aussi symptomatique de la culture sexiste de l'hôpital qui pour le coup reste entièrement à questionner. Après, il y a sûrement des ressources et d'autres luttes à mener. Je sais que ça fait quelques années que sur les violences obstétricales, il y a quand même pas mal de choses qui se font et qui se disent, la parole se libère, mais pas seulement.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ça fait partie. Pour nous, cette fresque, c'est juste un symptôme, en fait. C'est pas effectivement le plus grave de ce qui peut se passer dans le cadre des études de médecine et dans les internats. Il y a des choses gravissimes. Enfin, les rapports de l'intersyndicale des internes de France le montrent, et c'est grave. Il y a un quart des étudiants et étudiantes qui vont vivre dans le cadre de leurs études par des co-internes ou bien par des chefs de service ou bien des médecins sous lesquels ils travaillent. Ils vont vivre des violences, qu'elles soient sexistes, qu'elles soient sexuelles ou des humiliations, bref, des choses, des agressions en tout cas, qui n'ont absolument pas lieu dans la vie civile, ça c'est sûr, mais dans un lieu de travail, surtout dans celui de la santé, c'est encore pire parce qu'il y a ce huis clos qui nous empêche de parler. Et parmi ceux-là, il y en a 16% qui vont arrêter leurs études de médecine à cause de ça. Donc il y a des grandes études qui montrent bien qu'il y a des choses terribles qui se passent dans le cadre du milieu de la santé, notamment dans le cadre du milieu médical. Et ces fresques ne sont qu'un symptôme qui participe en fait au climat d'insécurité, parce que quand on est une jeune étudiante ou un jeune étudiant qui a vécu ou vit actuellement dans son semestre d'internat des violences ou du harcèlement par un chef de service ou par un médecin, c'est pas neutre de venir se reposer, ou le seul moment où il peut éventuellement où elle peut éventuellement se vider la tête, bah, manger devant ça, avec possiblement, d'ailleurs, possiblement, des représentations qui lui rappellent ce qu'elle a vécu, ou bien des médecins qui sont représentés là-dessus, qui sont ses agresseurs, on ne sait pas. Et ça participe au climat d'insécurité, et voir que tout le monde cautionne, bah, ça contribue au fait qu'il faut garder le secret, et ça c'est terrible.
Et dernière question, est-ce qu'on sait qui a commandé cette fresque ?
Bah, elle a été commandée par le syndicat des internes. Elle a été commandée, alors j'ai plus le nom, mais elle a été réalisée par une peintre qui est cotée en plus. Donc c'est pas une fresque qui a coûté rien effectivement. Globalement, c'est quelque chose qui a été commandé. Et en plus, voilà, c'est une fresque qui en plus a été évolutive parce qu'en fait, elle a évolué au cours des mois. C'était pas une peinture posée. Régulièrement, il y avait de nouveaux personnages qui apparaissaient, de nouveaux détails. Donc, elle est retirée et quelque part, tant mieux. Maintenant, pour nous, c'est une petite victoire, mais en demi-teinte, parce qu'en fait, on se rend compte que ça n'a certainement pas servi de leçon à l'internat. Moi, suite à ça, j'ai été virée de l'internat, parce que quand j'ai témoigné au tribunal, du coup, il n'y avait plus de question d'anonymat possible. Et la réponse à ça, ça n'a pas du tout été de l'internat, quelque chose de l'ordre d'un mea culpa, de « on va prendre les mesures qu'il faut, on n'avait pas compris, désolé, on va faire les mesures », pas du tout. Là, moi, j'ai reçu un mail cinglant disant que j'avais porté préjudice moral à l'internat et que j'avais gravement entaché la réputation de cette institution et j'ai été virée. Donc là, voilà, wow. ça a été immédiat et c'est sans appel. Il y a eu des mails qui ont été envoyés de l'internat à des médecins de mon service pour signaler ce que j'avais fait. Donc heureusement pour moi, et j'en suis bien contente, ce ne sont pas des médecins qui vont avoir des actions contre moi par rapport à ça, parce que finalement, ils le savaient déjà et ils sont sympathisants de la cause, donc il n'y a absolument pas de question à se poser. Mais c'est grave, en fait, parce que ça veut dire que dans un service où j'aurais pu avoir, pour une raison X ou Y, des problèmes, quels qu'ils soient, d'ordre professionnel ou personnel, ou en tout cas de management avec des chefs, là, ça aurait pu me retomber dessus. Au-delà de me faire virer, c'est des moyens de pression qui sont d'un autre âge, qui sont dangereux et qui perpétuent cette loi du silence. Parce que là, avec ce message-là, ça veut vraiment dire, faites ce que vous voulez, mais par contre, si vous venez dire ce qui se passe dedans, vous allez avoir des représailles, et les représailles ne sont pas neutres.
Humiliation et intimidation, du coup, sont bien ancrées dans les cultures de l'hôpital à Toulouse, mais pas seulement. C'est un peu ce que je retiens de ce que tu viens de raconter.
C'est exactement ça. Il y a encore du chemin à faire. Et heureusement qu'à l'extérieur, il y a des collectifs féministes, des syndicats qui prennent le temps et l'énergie de porter ces combats-là. Parce qu'en fait, ce qu'on disait au juge, c'est que ces combats-là, en interne, ils sont très compliqués à mener. Parce que quand on est en interne, on prend le risque d'avoir soit des sanctions immédiates, soit de mettre fin à sa carrière, en fait, tout simplement, parce que les conséquences, elles peuvent aller jusque-là. Quand 16% abandonnent leurs études à cause de ça, c'est bien qu'il y a quand même un risque pour la carrière qu'on a voulu mener au sein d'un institut, d'une institution pour porter des valeurs de bienveillance, d'entraide, d'égalité homme-femme, de droit à la dignité, qui ne sont absolument pas respectées quand on voit ce genre de fresques qui les bafouent toutes.
Merci beaucoup à toi pour ton témoignage. Je te souhaite de pouvoir continuer tes études, du coup, puisque tu es interne, c'est-à-dire que tu es encore en études.
Moi, du coup, je suis praticienne. Donc, en fait, moi, mes études, heureusement, elles sont terminées. Je ne vais pas être pénalisée par rapport à ça. Et en fait, clairement, pour dire les choses jusqu'au bout, moi, si j'ai pris la parole là récemment, en fait, parce que ça fait des mois qu'elle est là, si j'ai pris la parole récemment, c'est un, parce que le CHU de Toulouse a été élu premier CHU de France et ça m'a fait grincer des dents phénoménalement quand j'ai vu qu'il y avait ça au premier CHU de France, et ensuite parce que mon contrat s'arrête à la fin de l'année, donc ils ne pouvaient plus avoir vraiment de pression par rapport à moi parce que de toute façon, j'avais rien à perdre. Mais pour ceux qui ont encore des choses à perdre parce qu'ils veulent continuer dans cette institution-là ou dans ce CHU-là, ils sont astreints à la loi du silence et c'est bien ça qui est dramatique.
Merci beaucoup à toi en tout cas. Bonne continuation et merci pour ton témoignage.
Avec grand plaisir, merci à vous.
Salut.
Salut.
La nuit des fantômes de toi m'emporte soudain, j'ai froid. Toi, moi, comme deux Indiens, libre dans le nid.
J'aime la vie, mais pas la tienne. J'aime la vie, la 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 la. J'aime la vie, mais pas la tienne. J'aime la vie, la 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 la. Multitude de gens ayant l'habitude d'écouter Canal Sud oublient la solitude et la lassitude.
Il est 14h moins 10 sur Canal Sud. Vous venez d'entendre un super jingle pour la nouvelle génération de Canal Sud. Merci encore à Gaëlle, à June et à Amar d'être intervenus aujourd'hui dans le magazine. Il reste 5 minutes et je voudrais vous lire un communiqué, un appel en fait d'une campagne anti-racisme et solidarité qui donnera lieu à une manifestation ce samedi 18 décembre à Toulouse. Notre pays n'a ni carte ni limite. Il ne fait pas la guerre si ce n'est au fascisme, au colonialisme, au racisme, à l'injustice et aux inégalités. Notre pays n'est pas isolé, atomisé, soumis. Il existe dans tout ce qui relie, regroupe, donne confiance et lutte. Notre pays est en grand danger. Il doit sortir, se montrer, se lever, vivre. Car notre pays brûle. Il s'appelle Avenir. Car notre pays est étouffé, il s'appelle liberté. Car notre pays se meurt, il s'appelle égalité. Car notre pays est opprimé, il s'appelle dignité. Notre pays est en danger, nous appelons à la mobilisation générale. Pour l'avenir, si la planète brûle, cela n'a rien à voir avec les migrations, nos couleurs de peau, nos origines, nos religions. Le monde n'attend qu'une étincelle pour exploser, et certains nourrissent l'incendie qui nous menace. Nous dénonçons toutes les formes de racisme, dont l'islamophobie, l'antisémitisme, l'antiziganisme, la négrophobie et le racisme anti-asiatique. Nous exigeons notamment la fin des contrôles aux faciès, l'abrogation de la loi dite « séparatisme », le respect du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la fin des dominations économiques, militaires et politiques, en particulier la France-Afrique. Pour la liberté, nous voyons que lorsqu'on commence à limiter la liberté pour certains, c'est la liberté de toutes qui recule. C'est ainsi que se mettent en place des pouvoirs de plus en plus autoritaires. Nous exigeons la liberté de circuler et de manifester, et notamment l'abrogation de la loi dite « sécurité globale », la fin des violences et les crimes policiers et pénitentiaires, la suppression des mesures de répression contre les migrantes, OQTF, IRTF, et la fermeture des centres de rétention administrative. Nous exigeons la destruction des murs qui s'érigent partout dans le monde pour séparer et contrôler les peuples. Pour l'égalité des droits, les arguments utilisés contre l'immigration sont faux économiquement et ne servent qu'à justifier les mesures qui amplifient monstrueusement le racisme et les inégalités sociales. L'oppression et la surexploitation des migrants aggravent les conditions de toutes les salariées. Nous revendiquons l'égalité des droits pour toutes, le renforcement et l'accès réel à la santé, à l'éducation, à des revenus décents, au logement et l'arrêt des expulsions dans les foyers de travailleurs, travailleuses migrantes. Nous exigeons notamment la régularisation des sans-papiers. Pour la dignité, nous refusons la banalisation de l'insoutenable. Nous dénonçons les politiques anti-migratoires et du non-accueil des migrants. Nous refusons l'instrumentalisation des femmes à des fins racistes. Nous réclamons vérité et justice pour les victimes de violences policières et pénitentiaires. Nous exigeons le respect des convictions et croyances de tous et toutes. Debout, nous redevenons dignes. Pour la solidarité, nous appelons toutes et tous à se lever, à se rassembler, s'organiser, à faire vivre dans notre pays, partout, à faire vivre notre pays, partout où il existe. Dans les quartiers, les villages, les ronds-points, les écoles, les lieux de travail. Autour d'un hôpital menacé, d'une mosquée ou d'une synagogue fermée ou attaquée, d'une église où l'on fait grève de la faim pour les migrantes, des associations antiracistes dissoutes ou menacées de l'être. D'un théâtre qui avait été occupé, d'un piquet de grève, d'un immeuble menacé d'expulsion, d'une frontière. À partir d'un local associatif, ou d'un syndicat, d'un lieu culturel ou solidaire. Nous appelons notre pays à se lever en masse, s'organiser et lutter pour la solidarité et contre le racisme, en multipliant les initiatives de toutes sortes, et dans toutes les villes et les villages, en manifestant ensemble le même jour, le samedi 18 décembre, à l'occasion de la Journée internationale des migrants, à Paris, pour une manifestation nationale au mois de mars à l'occasion de la Journée internationale contre le racisme. Notre pays existe, il s'appelle Solidarité. Je vous redonnerai le rendez-vous, est donné, ce sera donc ce samedi 18 décembre à 11h, j'imagine que ça se fera peut-être dans le centre-ville de Toulouse, à vérifier, vous trouverez toutes les informations sur les sites iata.info, ou d'hémosphère. Je vous souhaite une excellente après-midi à toutes et à tous. Et dans quelques minutes va commencer l'émission des lessiveuses.
Une multitude de gens ayant l'habitude d'écouter Canal Sud oublient la solitude et la lassitude.